J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scope, votre rendez-vous radiophonique hebdomadaire pour parler cinéma sur Radio Campus ou la fréquence 92.1. Et oui, je m'en tiens à ce que je viens de dire. Pour toutes les cinéphiles, je m'adresse à toutes les cinéphiles qui nous écoutent actuellement. Pour tous les gens qui sont addicts à IMDB, Sens Critique ou Letterboxd, il faut sachez que tous les mercredis, vous serez toujours entourés de cinéphiles férus comme moi de watchlists et de review avec lesquels ils seront d'accord ou pas. Je m'appelle Victoria et je suis entourée de deux collègues que je vois quasi tout le temps depuis un mois pour mon plus grand plaisir. À ma droite, Sarah. Salut Sarah.
Hello, ravie de vous retrouver.
Et à la technique, on a Martin. Salut Martin.
Coucou.
Alors, aujourd'hui, on vous a teasé un nouveau petit concept d'émission, à savoir, en fait, on a dit deux films, on va parler de plusieurs films, mais de deux gros films, on va dire, sur lesquels on va plus s'attarder, qui ont le même tronc commun en termes de structure narrative, mais qui décident chacun à leur manière, de prendre un chemin complètement différent, narrativement parlant, pour notre plus grand plaisir, autour d'une thématique qui fait souvent débat, moralement parlant, au cinéma, en tout cas en termes de représentation de personnages. Mais je vous laisse un petit peu le mystère parce que avant ça, effectivement, il fait beau et oui, on vous fait parler de cinéma quand il fait beau alors que vous devriez être dehors. Mais on mise sur le fait que comme vous êtes cinéphile, vous avez quand même une petite radio dehors sur l'herbe que vous nous écoutez avec une petite boisson fraîche, n'est-ce pas ? Mais justement, en parlant de beau temps, on va quand même faire un petit retour, n'empêche, sur ce qu'il y a en salle. Est-ce que vous avez fait un petit repérage sur ce qui vous intéresse dans les salles obscures où il fait frais et bon vivre ?
Clairement, là, en ce moment, il faut faire une sélection parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, depuis 2 mois. Moi, j'ai été submergée, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Mais là, c'est fini, les affaires reprennent. Et donc, on n'a pas encore pu vous en parler ici sur Scope, mais le 25 mars est sorti un film que j'ai pu découvrir au FIF et que j'ai beaucoup aimé, qui est La Danse des Renards, qui est un film de boxe, de jeunesse, d'amitié masculine, de masculinité. Et très beau film que je recommande vraiment à un peu tout le monde, je pense. Il y a vraiment quelque chose qui m'a un petit peu hypnotisée dans ce film, et je pense que c'est son rapport à comment on représente la violence comme divertissement de nos jours. Voilà, au-delà de tous les thèmes que le film aborde, il y a vraiment ce petit détail-là qui reste avec moi depuis plus de 6 mois.
Très bien, et toi Martin ?
Je voulais juste déjà ajouter pour La Danse des Renards que, pour encore plus vous convaincre d'aller le voir, moi je sais qu'il a aussi beaucoup gagné de prix à la Semaine de la Critique à Cannes, il a vraiment tout raflé, c'était vraiment un véritable plaisir, surtout que moi je suis toujours un peu frileux, où justement on peut avoir des films qui sont un peu plus ancrés dans le réel comme ça, et là avec le sujet de la boxe, moi je suis pas familier avec ça, donc j'y allais pas non plus à reculons, mais avec pas trop d'attente, et au final ça a été vraiment un véritable coup de cœur. Mais là, sinon, dans les sorties actuelles, moi j'ai pu voir un film qui est sorti récemment qui est The Drama de Christopher Burley avec Zendaya et Robert Pattinson, que j'ai beaucoup aimé. Ah, controverse sur le réalisateur. Controverse sur le réalisateur qui est un peu trop sympathisant avec l'idée de sortir avec des personnes mineures. Yes. Donc voilà, j'ai appris ça après ma séance, quel plaisir.
C'est toujours comme ça, c'est pas drôle sinon.
C'est ça.
J'aurais dû aller voir Super Mario Galaxy qui est sorti, et comme ça je vois des références à Smash Bros, et j'attends le film à pognon qui vont nous sortir dans quelques années, mais au moins il y aura Mario et Link et moi je serai content. Non mais il y a Star Fox sur le grand écran, moi j'ai vraiment hâte que ça arrive quoi.
Petit spoil en plus.
Non, dans le film Smash Bros. Non, comme autre film qu'il y a en salle, j'ai vu qu'il y a Wedding Nightmare 2 qui est sorti. J'ai pas vu le premier, mais.
Très cool.
Moi, je n'ai pas du tout entendu parler de la promo du 2 ici. J'ai été surprise de voir qu'il était en salle en fait.
Ouais,
les
communications étaient très hasardeuses. J'ai vu passer l'affiche au Kinépolis à Bruxelles, mais il y a eu très peu de bandes annonces. Maintenant, il y en a plein, mais avant, c'est vrai qu'il y a eu très peu de communication, je trouve. Alors que le premier avait eu un succès quand
oui,
même.
Oui, j'ai l'impression
aussi. Il sortit en 2019. Si vous n'avez toujours pas vu Wedding Nightmare, bah, comme Martin, je vous invite à le voir. Il est vraiment très chouette. Franchement, si vous aimez les films de survival horror un peu avec des scream queens, allez-y quoi.
Si j'ai bien compris, c'est donc le soir d'un mariage, elle fait un cache-cache un peu mortel. C'est pas une tradition comme ça ?
il y a un peu de ça. En fait, c'est l'histoire d'une meuf qui marie un mec dont la famille est vraiment très très riche. et elle n'est pas forcément hyper bien accueillie dans la famille, donc elle y va un peu à reculons, mais bon, elle aime le mec, donc il se marie, etc. Il y a une sorte de tension avec la famille, et en fait, le soir, elle se rend compte qu'elle a mis les pieds dans un petit bourbier, parce qu'en fait, il se trouve qu'apparemment, la famille a une sorte de tradition très très bourgeoise, bizarre, à savoir, tu pioches dans un jeu de société. Et après, tu vas voir. Voilà, je vous en lis pas plus, mais ouais, c'est pas juste un simple jeu de société. Petit spoiler alert. Et c'est vraiment très cool. C'est pas non plus une révolution en termes de films d'horreur, mais ça a le mérite d'être vraiment très divertissant. Si vous aimez les films vraiment Survivor, Scream Queens, s'il vous manque des bons films de Survivor, je trouve que franchement, il fait le taf. Il a 7 piges et il est toujours aussi efficace, je trouve. Donc voilà. Et en plus, il y a quand même des belles têtes là-bas. Il y a Samara Weaving qui est une super actrice. Il y a aussi Adam Brody aussi qui joue. Seth Cohen dans faut avoir la ref comment ça s'appelle, dit aussi en anglais,
je ne sais pas,
mais ouais, c'est un super comédien, donc vraiment je vous conseille Wedding Nightmare. En salle, j'avais aussi noté, alors ça c'est vraiment qui tout double, je ne l'ai pas vu, je vais peut-être le voir par curiosité, ça a l'air très barré. C'est un film de et avec Gérard Jugnot, le retour de Gérard Jugnot en tant que réalisateur, ça faisait longtemps. Ça s'appelle Mauvaise Pioche. Figurez-vous qu'en fait c'est l'histoire d'un mec qui se fait pincer parce qu'on pense qu'il s'agit de Xavier Dubon de Légonesse. Sauf que ce n'est pas lui. Et le mec est joué par Gérard Jugnot. Et il est accompagné d'une ribambelle d'acteurs qui font les joies et les malheurs de la comédie française ces temps-ci. À savoir Philippe Lachaud, il y avait qui d'autre? Il y avait Michel Leroc, je pense. Je vais passer dans la bande-annonce, il y a plein d'acteurs comme ça. Pour ma part, j'ai peur que le concept soit gâché par le côté comédie française, vu la présence d'acteurs qui font cette renommée de comédie française très rabâchée.
Et pas toujours positive d'ailleurs comme renommée.
Pas toujours très flatteuse en effet, mais en tout cas, je vais quand même le voir par curiosité et je vous dirai ce que j'en pense. Hein.
Mais que je sache, malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais il n'y avait pas un autre film qui était un peu dans cette veine-là, qui était Les Pistolets en plastique, qui parlait de Xavier Dupont de Ligonnès.
Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air très chouette.
En fait, quand tu as dit le pitch, ça m'a vraiment beaucoup rappelé le pitch que j'avais vu pour ce film.
C'est de Jean-Paul ou Jean-Christophe Maurice, je sais pas comment il s'appelle.
Ah mais oui, je me rappelle de ce film. Enfin, le titre a mis quelques secondes
voilà,
à monter.
Voilà, et t'as littéralement le monsieur en question sur l'affiche.
Peut-être
j'ai
l'occasion
des copines qui l'ont vu et qui l'avaient beaucoup aimé, celui-là en tout cas, donc voilà.
Peut-être l'occasion de vous livrer, peut-être, je tease, une émission sur inspiré de faits réels. Ça peut faire un bon sujet, écoutez. Et moi, j'avais envie de vous conseiller un rescapé de festival qui a enfin eu droit, un an après, alléluia, à une sortie salle. J'ai envie de vous parler de Mysterious Gaze of the Flamingo de Diego Céspedes, qui est un petit bijou, en fait, littéralement. Si vous aimez les westerns, figurez-vous que c'est un western qui met en décor une confrontation entre le monde extérieur, très conservateur, et une communauté queer qui loge quelque part dans le désert, je sais plus où, mais ça parle de vraiment d'hostilité, en fait, d'hostilité communautaire. C'est super intéressant, c'est magnifique. Il y a des images à tomber par terre, et croyez-moi, vous allez être divertis, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez tomber amoureux peut-être, enfin voilà, mais en tout cas, croyez-moi là-dessus, c'est un super film. Donc allez voir The Mysterious Gaze of the Flamingo, parce que je suis trop contente qu'il ait eu une sortie en salle, parce que j'avais découvert au Brief l'année dernière, et c'était un banger, et il a reçu des prix, et c'était mérité.
Eh ben, tu m'as convaincue.
Bah vraiment, allez le voir. Je pense qu'on a fait le tour pour les sorties salles. Il y en a plein, évidemment. On a pioché, on a piqué les cerises les plus mûres du panier, mais il y en avait plein d'autres, évidemment. On va attaquer le gros du sujet. Alors, aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle série de types d'émissions. À savoir, on va prendre deux films qui commencent la même manière, plus ou moins, qui ont le même trope, donc le même tronc narratif commun. À savoir Anora de Sean Baker versus, enfin plus ou moins versus, Mariage à l'italienne de Vittorio De Sica. En fait, je sais pas, une entité un peu David et Goliath, sauf qu'on va faire une petite remontée dans le temps, progressive, parce qu'en fait, ces deux films ont en commun donc un personnage qui est travailleuse du sexe et qui est sauvé par un homme riche blanc qui la sauve de cette galère. Je dis ça avec des gros guillemets caricaturaux, parce que c'est comme ça que sont considérés la plupart de ce genre de personnages au cinéma en général. Et on avait envie de vous parler de ce genre de représentation au cinéma, parce que la prostitution, c'est un sujet qui est abordé au cinéma depuis belle lurette. Le premier film en parler vraiment. S'appelle Prostitution aussi. C'est un film allemand de Richard Oswald de 1919, figurez-vous. Donc ça remonte, hein. Ça fait 100 piges et quelques. Et donc voilà, j'avais envie d'aborder ça avec vous. On va parler de Anora. Voilà.
Oui, trop bien. Ben, moi, j'ai adoré Anora. Je vais me permettre d'en parler un petit peu parce que j'étais pas encore là quand vous avez dû parler du film quand il est sorti en salle.
Est-ce qu'avant de lancer tout ça, on ne mettrait pas un pitch et le cadre de pourquoi on connaît ce film ?
Vas-y.
Ah, alors du coup, pour vous dire très rapidement, donc Anora, c'est un film qui est sorti l'an dernier, si je dis pas de bêtises, mais surtout qui a gagné Oscar du meilleur film et qui a même vu son actrice principale être un peu mise même sur le devant de la scène.
5 Oscars au total.
5 Oscars, ah bah voilà. Et qui a mis Mackie Madison en star internationale très vite. On l'avait découvert avant chez Tarantino. Mais donc, c'est un film sur une travailleuse du sexe new-yorkaise, si je dis pas de bêtises, qui va se retrouver mariée à un jeune homme d'origine russe, si je dis pas de bêtises.
Et qui est
super friqué,
et
fils à papa, et on va voir comment ça va un peu mal tourner parce qu'il y a d'autres problématiques qui vont en découler. Ça va devenir une véritable. Bah, on va pas en dire trop.
Voilà. Le film aussi se déroule à New York et je pense que c'est important, enfin c'est intéressant de le souligner vis-à-vis d'un autre film dont on vous parlera un tout petit peu après. Donc on est sur la côte est des États-Unis. Et non, Anora, moi c'est un super film que j'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur. Du coup, c'est fin 2024 qu'il était en salle, je crois, parce que c'était dans mes coups de cœur de 2024. Et c'est un super film qui, pour moi, avant de parler de travail du sexe, parle de précarité, parle de lutte des classes et des histoires qu'on est prêt à se raconter à soi-même pour vouloir croire au fait qu'on peut s'en sortir malgré tout. Et j'ai trouvé que le film réussissait ça extrêmement bien, que ce soit du début et puis on a plein d'événements qui se déroulent. Enfin, on va avoir une espèce de courte poursuite contre le temps, contre presque les éléments, et pour arriver à cette conclusion où vraiment on avait envie d'y croire jusqu'au bout, mais c'est comme ça.
Et encore là, tu dis ça finit comme ça. Pour moi, c'est pas spécialement une fin malheureuse.
Hein. Non.
Quand je vois la fin du film, même justement, il y a un peu ce truc. J'irais même pas jusqu'à dire que c'est doux amer. Il y a quelque chose de presque positif, mais c'est un film qui regorge de plein de surprises. Je pensais surtout ça.
Vraiment. Et encore un petit point que je tiens à défendre, parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est un film qui est profondément bienveillant envers son personnage principal, donc envers Annie, qui est cette travailleuse du sexe. Pourquoi je trouve le film bienveillant envers son personnage ? Eh ben, c'est parce qu'il va lui arriver plein de choses pendant ce film. Et moi, en regardant ce film, j'ai jamais eu cette boule au ventre que j'ai parfois en regardant certains films faits par des hommes, mais pas que, où je me dis, là, ça y est, ce réalisateur, il va maltraiter son personnage, il va faire qu'elle se fait agresser, violenter, juste pour avoir de la shock value. En fait, je trouve que ça n'arrive pas dans Anora, même s'il lui arrive des choses graves à certains moments. Jamais j'ai eu peur que la ligne soit franchie et qu'on soit là pour lui faire du mal un peu gratuitement. Et c'est là-dedans que je trouve que le film est bienveillant envers son personnage.
Moi je l'ai vu il y a un an et quelques, du coup, bah, quand c'était encore en salle. Je vous avoue que je trouve que c'est un bon film, mais je sais pas, il y a un truc dedans qui me laisse un peu en dehors. Je saurais pas vraiment comment le quantifier. J'aime beaucoup le réalisateur, mais bon, évidemment, je pense que j'ai quand même préféré Florida la Project. Même, évidemment, ça reste la pierre angulaire quand on parle de Sean Baker, parce que c'était aussi, enfin, c'est le même réalisateur. Et il y avait aussi Fair Red Rocket que je trouvais vraiment très cool et très sous-coté, alors qu'il est génial. Simon Rex est incroyable dedans. Mais oui, non, je sais pas, Anora, j'ai bien aimé, mais il y a quelque chose qui me laisse en dehors. Par exemple, je fais partie des gens qui trouvent que, personnellement, encore une fois, je trouve que parfois on n'est pas forcément assez avec Anora. Enfin, j'aurais voulu avoir un petit truc sur sa vie privée en dehors du film, parce que le film se passe d'une traite en termes d'espace-temps. Enfin, ça se passe en combien de temps ? En 2 jours, un truc comme
oui,
ça ?
Oui, oui, c'est vraiment... Enfin, quand les choses se mettent en route, c'est vraiment une course contre la montre.
Ouais. Il y a vraiment cet aspect course contre la montre. Donc, évidemment, avec du recul, évidemment, en termes de course contre la montre, le personnage n'a pas le temps de faire un monologue de « Alors moi, à 9 ans, il s'est passé ça. Mon grand-père, il s'appelle ça. » Évidemment, on n'a pas le temps de faire ça, mais je sais pas, il y a un truc qui me laisse un peu en dehors avec ce film et je sais pas pourquoi. Peut-être que je le reverrai, je vous redirai. Mais...
T'aurais aimé en savoir plus sur son intériorité, sur son vécu.
Ouais. Et aussi la scène d'intro avec du recul, je sais pas si c'est un male gaze ou alors justement un truc pour faire réagir par rapport au regard qu'on porte sur ce métier dans le cinéma en général.
Et voilà. Je trouve que c'est une question tout à fait légitime. Enfin, je trouve pas que le film niveau Male Gaze soit le pire possible.
Non, évidemment, il y a largement pire.
Mais ça reste un film réalisé par un homme américain, etc., etc.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, qui garde ce regard-là, quoi qu'il en soit.
Même, moi, je voulais presque revenir plutôt sur un peu une justification du fait qu'on rentre pas tant dans le personnage, parce qu'il y a quelque chose qu'on disait sur ce film, c'est que je pense ce que le réalisateur, donc Sean Baker, essaye d'aborder dans ce film, c'est surtout une lutte des classes. C'est vraiment le thème central qui semble se dégager de ce film. Et le fait de choisir de moins personnifier son personnage, alors, pas ça là. Inévitablement, ça la dépersonnifie, mais ça permet en fait de concerner le plus de personnes possible et en fait de rendre ces personnages réceptacles des classes qui sont censées représenter, plutôt que les rendre uniques et se dire bah c'est ce personnage. Ça facilite le fait d'en faire des symboles. Et pour moi, c'est alors moi j'aime aussi beaucoup le film Anora. Je pense que c'est quelque chose qui m'a plu aussi, c'est de voir ce combat et comment il est mis en scène qu'on perd de la personnification pour réussir à raconter cette autre histoire ou faire transmettre ce message, moi, c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu.
Ah, je te rejoins pas mal là-dessus.
Ben voilà, j'ai plus rien à dire sur le film, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi.
Moi, j'ai bien aimé, vraiment. Donc, c'est la classique, ça va être comme un peu tous les films dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, Anora, elle travaille du sexe, et puis donc elle rencontre cet homme, et elle se dit « Ah, est-ce que ce serait pas mon prince charmant, comme dans toutes ces histoires? Est-ce que c'est pas celui qui va me sortir de là, que je veux y être sortie de là ou pas ?» C'est pas la question. et dans Anora, en fait, on sent vraiment qu'elle a envie d'y croire plus que ça n'est le cas vraiment. Et on le voit, en plus, cet homme, il a beaucoup de failles. Comme Anora, hein. Les personnages ne sont pas parfaits, mais vraiment, on se dit que c'est parce qu'elle a envie d'y croire, quoi. Que ça fonctionne un minimum.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Anora s'inscrit dans ce tronc commun narratif qu'on va trouver à la plupart des films dont on va parler. Le prochain, on va remonter longtemps, on va faire un petit voyage 30 ans en arrière.
Déjà,
c'est un gros saut dans le temps. Hein.
35 même, non ?
35 presque, ouais presque. Si je vous dis 1990 et Julia Roberts, évidemment, on pense à Pretty Woman. c'est un peu la définition du tronc commun que j'ai trouvé à ces deux films, à savoir une pauvre travailleuse du sexe, je lis ça avec des gros guillemets, ouais. Vous ne me voyez pas, mais je fais ça avec très gros guillemets, qui est sauvée par un gentil homme riche blanc, à savoir Richard Gere, et il va la sortir de ce bourbier apparemment horrible qu'est la prostitution, je dis ça encore une fois, a été très très caricaturaux, mais sous le prisme de la rom-com très 90s.
C'est ça,
c'est très 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 rom-com 90s américaine.
C'est de la côte ouest cette fois-ci.
Oui, c'est devenu un film culte et ça a remis sur le devant de la scène Julia Roberts, parce que je pense qu'elle n'était pas très connue avant ça.
Pour moi, c'est le film qui l'a fait vraiment connaître et elle était jeune quand elle l'a fait aussi.
Ouais,
j'ai appris ça récemment, mais c'est 22 ou 23 ans, quelque chose comme
ça.
Wow,
ok.
Ouais.
vraiment mon âge, quoi. Mais voilà, quoi.
Pour un rôle pareil et pour l'histoire qu'on calque à son personnage aussi, c'est quand même... c'est jeune, quoi.
C'est vrai que dans le film, quand dans l'hôtel, ils peuvent pas dire le mot qui définit son métier et qui doivent la faire passer pour un membre de la famille de la personne, donc du coup de Richard Gere. Et ils demandent à un membre de la famille, pourrait dire cousine ou je sais pas quoi, mais elle dit ah, je suis sa nièce.
Et ça,
donc ça fait vraiment
ça, quoi,
génération
oui.
d'en dessous, tu vois. Là j'ai dit ouais, un truc de la même génération. Non, elle se met dans la génération d'en dessous, quoi.
Et moi, j'aime beaucoup Pretty Woman. Voilà, je sais que ça...
C'est doudou, c'est nostalgie.
Mais oui, c'est ce que je disais avant qu'on commence l'émission. Moi, je l'ai vue jeune. Et c'est Julia Roberts qui est flamboyante comme elle peut l'être. C'est des belles robes, c'est du shopping, c'est l'argent qui coule à flot. Voilà, I'm a simple woman.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce trope-là, c'est que on voit un peu le regard extérieur qu'a les gens qui ont des métiers plus respectables, je dis ça avec très gros guillemets, vu par la société.
Faudrait faire une alerte guillemets à chaque fois que je te vois les faire, je l'actionne.
Alerte guillemets. Par rapport au métier qu'exerce, je ne me sers plus du nom de personnage.
Non, moi non plus.
Elle s'appelle Viviane.
Viviane, sinon voilà. Je n'ai personne d'autre.
Je l'ai rattrapée juste avant l'émission.
Waouh, bah voilà, c'est encore frais dans ta tête. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, je vous avoue, ça ne fait pas partie des. On va dire des films.
Des rewatch réguliers.
Oui, non, ça fait partie des rewatch réguliers, des films considérés comme vraiment cultes des années 80-90, en termes de comédie romantique, parce que c'est une comédie romantique.
Ça joue complètement même la carte du conte de fées, en fait. Oui, même pas juste en second, en sous-texte. En fait, c'est dit littéralement et c'est réexploité. Ils veulent faire littéralement un conte de fées, mais moderne.
Vraiment. Mm-hmm. Et mais est-ce que vous considérez quand même tous les deux que c'est à voir un jour ou l'autre dans sa vie ?
Oui, moi je trouve que c'est un truc. Enfin, c'est un film considéré comme culte. Mmh. D'ailleurs, ça, c'est un truc que vraiment on peut faire un débat pendant une heure.
Bien
pourquoi
sûr.
On considère un film culte ? Qu'est-ce qui rend un film culte ? Comment un film reste culte à travers les années ? Pourquoi ?
Est-ce qu'on est obligé de l'aimer ?
Aussi, oui, vraiment, il y a des films cultes que j'aime pas trop. Voilà, ça arrive, c'est ce qu'on appelle la cinéphilie. Voilà.
Oh là là, les problèmes, le bourbier.
C'est caractéristique non, à chaque personne,
pour,
littéralement.
Pour
quoi.
Ajouter, alors, j'allais dire pour ajouter au débat, je suis peut-être mal placé pour en parler parce que moi, donc, comme je dis. Je l'ai rattrapé, là je l'ai revu avant l'émission, mais c'est parce que je ne l'avais jamais vu avant.
Mais c'était l'occasion.
Car je suis une fraude, comment ose-je
mais
parler de cinéma ?
Mais c'est à ça que sert l'émission aussi, mais... c'est à rattraper tous les trucs cultes qui sont dans nos watchlists depuis parfois 5 ans, voilà. Ouais,
mais je pense que la seule raison de le rattraper, c'est parce que c'est connu, et voilà qu'il y a un culte littéralement qui s'est fait autour, mais ouais, après l'avoir vu dans le contenu lui-même du film, à part, oui, on va dire l'éclosion de Julia Roberts, son apparition au public... je pense pas que c'est un film qui soit indispensable à voir, bien qu'il reste intéressant justement pour les débats qu'il va faire naître même dans les prochaines minutes.
Effectivement. Mais voilà, je vais.
Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avancer, on a le point de vue de Victoria.
Pardon, j'étais ailleurs, désolée. Désolée, j'étais ailleurs pendant 2 secondes.
Non, c'est ok.
C'est le café et la chaleur.
Voilà.
Mélange très.
Les aléas du direct.
Voilà. mais oui, non, avec du recul, Pretty Woman, c'est pas le truc qui me marque le plus de... Non, je sais pas.
Quand t'as dit regard extérieur, je pense que c'est vraiment le point de vue, en tout cas ce que j'ai dégagé du film, en fait, dès le début. Alors, après, je suis peut-être influencé par Anora, parce que donc, je l'ai regardé dans le cadre de cette émission avec Anora en tête, mais que j'ai vu donc il y a un peu plus d'un an. Mais alors qu'Anora, on sent qu'il y a une volonté de réalisme, voilà, il y a un peu un truc caméra portée, film indépendant. Là, on arrive, on a la caméra la plus propre d'Hollywood, la plus téléfilm comme ça, et quand on veut nous montrer le quotidien de Julia Roberts, elle fait « Oh non, ma colocataire a dépensé tout l'argent dans de la drogue et dans la fête, oh là là, je suis... » Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils sont en dehors et qu'ils disent quels pourraient être les problèmes d'une personne comme ça, et que...
Complètement.
Enfin, je sais pas, j'ai jamais l'impression d'être plongé dans cet univers, de découvrir cet univers, alors que l'un des... point fort du cinéma, l'un des points d'intérêt, c'est découvrir d'autres points de vue, découvrir d'autres univers. Et là, on est tellement dans la boule à neige, la boule de cristal magique bouclier de la comédie américaine puritaine. Et encore là, justement, on va faire le film va faire en mode, oulala, on n'est pas tout puritain. Le premier plan de Julia Roberts, c'est sur ses fesses. Bon, le film est quand même très puritain. Enfin, voilà, oui, où il est tout lisse et tout, ce que pour moi n'est pas Anora. Mais oui, après, quand on continue, c'est un peu conte de fées, c'est un peu rom-com. Richard Gere, je vais pas dire c'est le meilleur des personnages masculins slash love interest des films qu'on voit aujourd'hui, mais on va dire c'est le moins pire. J'aurais dit parce que entre l'héritier russe, Marcello Mastroianni et le personnage du film de Billy Wilder, Richard Gere, je pense, c'est forcément ils essayent de chercher le prince charmant, mais bon, il est pas irréprochable non plus.
Et ça, pour moi, c'est pas anodin non plus, parce qu'au niveau, si on compare tous ces films, le personnage de Richard Gere, c'est le seul qui n'est pas un client régulier en fait.
C'est vrai.
Qui n'est pas un habitué, qui n'a pas pour habitude de faire appel à des travailleuses du sexe. Et là, c'est juste un one time. Et comme c'est un super gars, il reforme cette meuf dans la rue. Voilà.
Et même, il va amener ce trope qu'on va revoir dans un autre film qu'on va aborder aujourd'hui, mais du oh non, moi je ne fais pas ça pour les relations charnelles, j'ai juste envie de parler avec vous. Bon, après, il a quand même quelques relations charnelles au passage, mais quand il arrive, il dit vous voulez qu'on s'assoie et qu'on parle, et on fait oh mon dieu, elle est tellement pure et tout.
Il était vraiment romantique, quoi.
Ah waouh, c'est Richard Gere, il a des cheveux gris, mais il a 30 ans.
Ouais, bon, on sent que le film a vraiment 36 piges en termes de morale, parce que je trouve que la forme du film est quand même très moralisatrice, puritaine. Enfin, en fait, je trouve qu'on te forge un peu à penser la même façon que le réalisateur. Voilà quoi. Bah, ça tourne vraiment très droit quoi.
L'un des points importants, et en fait qui va être récurrent avec la suite de l'émission, et qui pour moi distingue Anora et qui fait aussi, qui participe à ce que pour moi ce soit mon préféré de la liste, c'est que Pretty Woman introduit ce trope de fin où la fin c'est la travailleuse du sexe, bah maintenant, ah, elle s'est mariée et elle est avec le monsieur, voilà, elle va fonder une famille et ça va être la maman parfaite. Et voilà, il y a ce truc un peu bah, de conte de fées, ouais, pas réaliste, et où on dit, ah bah avant elle était au plus bas, oh regardez comme c'est la honte, oh, comme c'est mal. Et ça fait, ah maintenant c'est une femme modèle qui est bien mariée, de bonne famille.
Qui met un tailleur et un chapeau pour le brunch du dimanche.
Oui, voilà.
Complètement. Non, mais je trouve que oui, Anne aura vraiment cette vision et cette approche du réalisme, mais sans être... Je dis souvent que le film n'est pas graveleux, en fait, parce que, voilà, c'est pas comme dans Pretty Woman, où on va parler des problèmes de drogue, de la coloc et tout. Non, le problème d'Annie dans Anne aura avec sa sœur avec qui elle habite, c'est parce qu'elle s'embrouille, parce qu'elles n'ont pas racheté du lait, quoi. C'est normal, c'est ça le quotidien des gens qui travaillent, quel que soit leur travail.
Ben ouais. Mais ouais, et aussi comme c'est une rom-com, bah c'est très très romantisé en termes d'écriture aussi. Et le personnage même de Julia Roberts, je trouve, est très romantisé aussi. Ouais, ouais. Il y a très peu de nuances en soi, parce que c'est une comédie romantique et il faut que tout soit lisse et rond, mm-hmm, et plaisant pour tout un chacun, enfin en tout cas pour le grand public, quoi.
Bah, le, ouais, moment où il tombe amoureux et chargir, c'est parce qu'il la voit dans une jolie robe quand même. Parce qu'il y a ce truc où tu vois, d'abord, donc ils passent la soirée ensemble. Il y a ce truc où le matin, tu vois, elle a enlevé sa perruque, il voit ses vrais cheveux.
Naturel.
Puis ils parlent le matin au petit-déj, tu pourrais faire, ah c'est le moment un peu sincère, tu vois, où ils sont ensemble après le truc, puis il dit, ah va t'acheter des vêtements, elle fait la journée où là elle va s'acheter la robe, et quand il revient au bar, d'abord elle est de dos, il la reconnaît pas, parce que, oh elle est trop belle, et après elle se retourne, et t'as ce travelling qui va vers lui, et oh c'est, là. Oh ouais, elle a pris une trop belle robe, mais c'est pour ça que je l'aime, ah oh, les problèmes.
C'est la robe rouge.
La robe rouge c'est après.
Ah non, c'est la noire.
Non, c'est la robe noire, oui, et mais... tu fais, ouais, les années 90.
Plein de belles robes.
C'est très subtil.
Non mais
hein.
la robe rouge très jolie, hein, mais le tomber amoureux pour une robe, waouh.
C'est le fameux trope de, oh mon dieu, depuis le début, en fait, la meuf qui a des lunettes depuis le début,
mais
elle
c'est
est
vraiment
très belle,
ça
en fait.
C'est vraiment ça.
Tu lui mets vraiment les cheveux bouclés, du maquillage, et depuis le début elle était belle. Non mais j'y crois pas, quoi. C'est vraiment ça. Rire. Mais après, évidemment, que avec du recul, c'est dépassé, parce qu'encore une fois, le film a vraiment 36 ans, ouais, littéralement. Donc évidemment que c'est très manichéen, et que la morale est douteuse avec du recul, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on te prend du recul, quand ce genre de tronc commun, l'histoire, encore une fois, de personnage principal, en général, est une travailleuse du sexe qui est sauvée par l'homme blanc riche, etc. En général, on a souvent le même schéma qui est très moralisateur, male gaze, et ça a toujours la même finalité. C'est pour trouver le bonheur, faut que tu sois marié avec des gosses, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Ça, là, c'est pas le white savior, même si Richard Gere il est blanc, c'est vraiment le man savior. En mode, j'arrive, ouais, voilà. je vais vous sortir de ce taudis.
Prends cette bague.
Effectivement.
Aussi, si les comédies américaines c'était connu pour être réaliste et thought-provoking, ça se saurait. C'est pour ça que ça fait plaisir quand c'est le cas, mais là c'est moyen le cas.
Et c'est ça qui est intéressant entre Anne aura et Pretty Woman aussi, je trouve, c'est que c'est des films pas du tout de la même échelle au niveau production.
C'est ça.
Anne aura, c'est presque un film indépendant, et Pretty Woman, c'est un gros film hollywoodien, de studio, etc.
Le décor du penthouse, le penthouse est gigantesque.
Donc,
enfin...
Même s'il y a des décors plus grands dans un autre film, après c'est ce qui m'a marqué.
Ah, ouais. Mais je vous
un
avoue...
autre film qu'on va aborder, pas juste, ouais, un autre film. Non, non, vous non. Savez, il y a un autre film, il y a des plus gros décors, mais non.
Wow, ça
désolé,
existe.
Victoria.
Qu'est-ce que je disais ? Oui, je vous avoue, ça n'a pas grand-chose à voir avec le thème du jour, mais en termes de comédie romantique, je préfère regarder du côté de l'Angleterre que des États-Unis.
Ça se discute, je suis d'accord.
Je préfère revoir 4 mages à enterrement, qui est génial, où je sais que ce film a très mal vieilli, mais ça reste un bonbon, c'est un film bonbon pour moi, c'est Bridget Jones, le premier du nom. Évidemment que le film est très grossophobe avec du recul, etc.
C'est épouvantable.
C'est terrible. Mais en vrai, tu mets ça de côté, le film est feel good, il est drôle. Enfin, voilà quoi.
J'ai 2 exceptions américaines, ouais, que j'aime beaucoup en rom-com. C'est, oh, ma prononciation anglaise, là, vous allez savourer. C'est 13 Going 30.
Oh, j'adore,
ah,
ce,
oui,
film, il est trop
exceptionnel.
Beau.
Oui. Et bien sûr, 10 Things I Hate About You.
Ouais, ma bible.
Heath Ledger, jamais dans nos cœurs.
Ma
et,
bible.
Exceptionnel. Donc voilà, niveau rom-com, je pense qu'il y a de quoi faire sans forcément s'infliger Pretty Woman si c'est pas votre cam.
Ouais, et en soi, c'est pas vraiment une rom-com, mais Mean Girls, enfin, c'est un teen movie, mais c'est génial.
Qui est pour moi tout à fait. J'ai une liste de films pour mon frère, en des must-watch. Il y a Pretty Woman dedans, et bien sûr que le premier de la liste, c'est Mean Girl. Voilà, c'est à voir absolument.
Je veux bien la liste aussi. I am a Simple Man, j'ai vu aucun des films que vous venez de mentionner, mais je sais qu'ils sont sur une liste quelque part.
Il faudrait une watch list, c'est pas grave. Je pense qu'il est temps de marquer une petite pause. J'ai choisi une chanson qui parle de travail, du sexe et de transidentité et de queerness et qui a fait débat à l'époque parce que c'est une chanson qui met le côté new-yorkais underground à l'époque. Et en parlant de underground, j'ai parlé de Velvet Underground et de l'ancien chanteur du groupe, à savoir Lou Reed. On va écouter Walk on the Wild Side et on se retrouve juste après pour continuer notre fameuse remontée dans le temps sur le sujet du jour. À tout de suite.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Thank you.
de retour sur Sco pour une émission avec une structure toute nouvelle, une série d'émissions toute nouvelle, à savoir on prend deux films généralement qu'on confronte car il se trouve qu'ils ont en général la même structure narrative en commun. Ici aujourd'hui on confronte deux films de deux époques différentes, on a déjà parlé de Anora de Sean Baker qui date de 2025 versus Mariage à l'italienne de Vittorio De Sica de 1964 dont nous nous apprêtons à parler, et on les confronte car il se trouve que tous les deux partagent le même tronc narratif commun, en tout cas en termes de point de départ, à savoir on a comme protagoniste une travailleuse du sexe qui est sauvée par un homme riche blanc, je dis ça avec des grands guillemets évidemment, de façon très caricaturale parce que on va le voir dans notre remontée dans le temps, parce que oui, on a choisi de vous parler de ces films dans le prisme d'une sorte de remontée dans le temps. Donc on vous a parlé de Anora qui date de 2024 plus ou moins, et en fait on remonte dans le temps parce qu'après on a parlé de Pretty Woman des années 90 et maintenant on va encore remonter dans le temps et on va parler de films des années 60, à savoir Mariage à l'italienne de Vittorio De Sica, dont je me tardais à vous parler, parce qu'il se trouve que ce film parle de ce sujet-là d'une façon particulière, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des comédies italiennes, mais en général, en termes de structure, c'est très particulier. Voilà, je tenais à vous en parler. J'espère qu'un jour, on fera une émission qui parle de cinéma italien, évidemment.
Ça nous pend au nez.
Ah oui, ça gronde. Mais en tout cas, les comédies italiennes ont un ton très particulier, parce que en général, on a affaire à des personnages très caricaturaux, exprès pour faire ressortir des vérités. Pour faire ressortir des traits très caractéristiques et pour faire réfléchir le public et nous faire prendre du recul par rapport à la nature des personnages.
Est-ce que c'est pas très inspiré du théâtre ?
Ouais, ouais, clairement, c'est très 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 théâtral. Parfois ça frôle la surexplication parfois, mais c'est voulu parce que encore une fois c'est très schématisé, très caricatural, pour votre plus grand plaisir, parce que ici en termes de mastodonte de cinéma, on a tout bonnement Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni qui avait comme réputation d'avoir la grosse majorité du temps au cinéma un rôle qui lui collait très fort à la peau, à savoir le macho-man italien, n'est-ce pas, dans les années 60, mais c'est une image avec laquelle il était un peu blasé au fil des ans, voilà, si vous ne le saviez pas. Et ici, Mariage à l'italienne, on suit l'histoire de Filomena, qui est une travailleuse du sexe dans les années 40-60, je sais plus.
Oui, ça commence pendant la guerre, au final.
Ouais. Et littéralement, en fait, oui. Et en fait, elle travaille donc dans une maison close à ce moment-là. Et en fait, un jour, cette maison close est bombardée pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle est sauvée littéralement du bombardement, c'est très très symbolique, par un riche homme blanc, à savoir Marcello Mastroianni. Et ils vont filer le parfait amour parce que c'est un chouette type, l'empêche. Attends, il le retire de ce monde horrible qu'est la maison close. Je dis ça avec des gros guillemets, évidemment. Ce qui est super intéressant dans ce film, je trouve, c'est que ça commence par ça. Et alors là, c'est pas pour vous teaser, mais je vous jure, ça prend une tournure inattendue.
Inattendue.
Et en termes d'écriture, j'étais juste fascinée sur mon siège. Parce que ce genre d'histoire, en général, on arrive plus ou moins à retracer. C'est comme un texte à trous, tu dis, bon, je suppose que le mot suivant, c'est ça. Ah non, pas du tout. Ok, d'accord, je reste sur mon siège et je profite du spectacle, littéralement. Parce que, en fait, Vittorio De Sica, il prend à bras-le-corps cette caricature de personnage pour... Je me suis perdu ma phrase, c'est terrible. Pour laisser libre cours au jeu des personnages, des acteurs, ça veut rien dire des personnages, des acteurs, et pour nous faire prendre du recul en tant que spectateur, et c'est un bonheur en fait, pour les oreilles et pour les yeux, et je vous encourage à voir ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi, je l'ai découvert pour l'émission, du coup, et en fait, j'ai été super surprise. On le voyait donc dans le cadre de cette émission, où on a des films qui partent de même prémisse et qui ont des exécutions différentes. Et là, en effet, l'exécution m'a vachement surprise. La première moitié du film se passe, je passe un excellent moment, c'est bien rythmé, il se passe plein de choses, c'est très chouette. Là, je bouge ma souris sur mon ordi et je vois, il reste une deuxième moitié du film. Et je suis là, mais qu'est-ce qu'on a encore à me raconter ? Eh ben... plein de choses. Et non, c'était super divertissant déjà. Et je sais que parfois c'est un terme qui peut être utilisé de façon un peu péjorative. Ici, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai trouvé que le film jouait très bien avec ses personnages, ses archétypes de personnages. Donc voilà, on a cette femme qui est travailleuse du sexe, on a cet homme, voilà, l'italien macho des années 40, qui a des affaires, qui est riche, qui a sa mère, qui est très importante dans sa vie. Et on en fait des... On fait un micmac de tout ça, et il y a quelque chose de vraiment surprenant qui ressort, et j'ai trouvé que c'était un film d'une modernité folle. Le film est donc sorti en 64, pour être précise, et j'ai vu ça, et j'ai halluciné en disant comment ce film a pu être créé et être diffusé à l'époque. Enfin, je me suis interrogée du coup sur la réception du film, mais oui, d'une modernité folle.
Moi, j'ai pas forcément pensé ça, notamment à cause de la fin, sur laquelle on va peut-être pas trop revenir, mais qui recoupe avec ce qu'on disait avant. Non, le film, alors je l'ai pas non plus trouvé désagréable, mais je trouvais, en effet, il y a cette acrobatie, en fait, qui va se faire au milieu du film, qui est vraiment très intéressante. On dit pas en quoi ça consiste, ou est-ce qu'on dit en vrai un peu... Parce que c'est pas comme si c'était un élément, c'est pas comme si c'était un plot twist ou un élément de narration, mais sans le dire littéralement, on va créer un visage à un personnage pendant la première moitié, puis on va le déconstruire pendant toute la deuxième moitié. Donc c'est un... Voilà, c'est, on a ce changement qui est intéressant, qui moi, alors que je trouve l'entreprise vraiment pertinente, surtout pour ce film où donc, on va avoir deux personnages en opposition, elle n'a pas si bien marché sur moi. J'ai pas été tant soufflé que ça, alors que quand même, c'est un point de vue, ou en tout cas une prise de décision que je salue grandement. Franchement, bien joué, Vittorio, voilà, pas de surnom encore, on n'est pas... Le monsieur est mort. non, mais sinon, en fait, j'ai peur qu'il y ait un truc où c'est... J'ai l'impression que la première partie essaie justement de présenter... le personnage de Marcello Mastroianni qui s'appelle donc Domenico, elle dit même un peu Dumi comme ça.
Mimi.
Bah en fait, de base, j'ai pas trop... Enfin, je considère ce personnage comme un méchant, ou alors que j'ai l'impression que le film a envie de me montrer d'abord il est gentil, puis ensuite on dit il est méchant. Et en même temps, je m'attache pas encore tout de suite au personnage de Philomena, mais je dois dire que c'est un personnage super, super intéressant, où nous, on en a parlé avec Victoria. Toi, tu aimes beaucoup le fait, elle met, et ça c'est très kiffant, elle met vraiment des coups de pied dans la fourmilière, elle se laisse pas faire à plein de niveaux. Mais je pense que l'un des problèmes que j'ai eu, c'est que pendant la première moitié, je vois pas vraiment ça. Et je vois juste ce trope de « Ah, bah ça va, ça c'est un aspect, c'est vrai, qu'on n'a pas encore abordé sur ce type de film, donc qui aborde le côté de toute l'industrie du sexe. C'est l'âge, ou on va dire la maturité du personnage, où bah, par exemple dans Anora, on nous dit qu'on est sur une jeune personne qui est justement très innocente et qui va tomber dans ce piège. L'autre film, c'était Pretty Woman, bah là, elle a justement une certaine maturité, elle a en fait cette adjudante qui va être un peu comme une petite sœur pour elle, et Julia Roberts, elle va dire « Ah non, faut pas faire comme ça » ou « Ah, t'as fait des bêtises ». Bah, dans la première partie, en fait, je vais voir donc le personnage de Philomena qui va être en fait un peu dans la jeunesse, qui va tomber dans ce piège, et j'ai pas l'impression, et en effet, c'est pas ce qui va arriver, j'ai pas l'impression que je vais être surpris, ou en tout cas, ça va être la partie un peu plus sur des rails, où en fait, il va l'emmener à des dates, elle va être « Ah, oh, c'est trop mignon, il y a le monsieur qui me donne de l'attention !» Et après « Ah oh non, je peux pas vraiment être dans une relation avec lui, il me mène en bateau !» Bah oui, sista. Donc voilà, il y a toute cette partie, malheureusement, qui a eu du mal à me prendre, et donc dans la deuxième, j'étais peut-être un peu perdu, mais je salue vraiment la pirouette de mise en scène qui a lieu.
En fait, je crois que c'est quelque chose que j'ai aimé dans le film, c'est que ça montrait la toxicité de ce genre de relation aussi, on voit tout à fait que c'est pas une relation égalitaire, qu'il va y avoir un ascendant de l'un sur l'autre, on sait lequel, et du coup je peux comprendre que la fin dérange vis-à-vis de ça, mais pour moi le film explore vraiment cette toxicité.
Tout à fait, et ce que j'aime beaucoup dans le film en fait, c'est que, bah, comme tu dis, pendant une heure, c'est un schéma vraiment très classique, très attendu, t'es là, ok, limite c'est un peu pas normal, mais il y a beaucoup de films qui sont très classiques et qui se remettent pas beaucoup en question, et puis là, il y a un snap. Et en fait, on dirait que le film prend conscience de lui-même, de sa structure qui roule vraiment trop droit, et le film se dit, mais en fait non, faut que je change, et il y a... Et puis il y a un personnage principal qui se remet en question et qui dit bah non, j'ai arrêté. En fait, c'est comme si le personnage avait pris conscience de sa destinée, on va dire, morale, et avait décidé de sortir de sa case narrative dans laquelle on l'inscrivait, en fait. Et je trouvais ça super intéressant. Et puis, oui, la performance des deux acteurs est incroyable, évidemment. Je peux vous faire un cours de ciné pour expliquer en quoi Sofia Loren et Marcello Mastroianni sont des bêtes d'acteurs, en fait. Mais,
Marcello Mastroianni reste un peu dans son rôle. rôle étiquette, comme tu disais, c'est ça qui est dommage.
Et justement, ici, je trouve que c'est intéressant parce que justement, on en joue en fait.
Ouais.
La morale, c'est pas un spoil ni rien, mais on te met un regard dessus, on te dit, bah en fait, ce genre d'homme, faut pas tout le temps les excuser en fait. Mm-hmm. T'es pas obligé tout le temps les excuser, on peut aussi les remettre en question quoi.
Bah, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a gêné avec le film, c'est que j'ai l'impression que, alors que donc, c'est un personnage que moi je considère comme full toxique, full problématique, vraiment l'antagoniste du film, j'ai l'impression que plus on avance, plus on veut un peu me donner une rédemption pour lui, alors que moi j'arrive pas à trouver cette rédemption, enfin pour moi il reste problématique, et je pense un aspect en plus qui me dérange, alors peut-être que toi t'as, ou vous deux vous avez pas vu comme ça, mais j'ai l'impression que le film va quand même mettre de la faute sur le personnage féminin avec le twist en fait, au départ on va te faire croire à elle est un peu méchante ou elle fait un peu ce coup bas. Et après, on va te montrer un peu ah, pourquoi, et on va essayer de te dire ah bah non, il faut la comprendre, et te dire pourquoi le personnage de Mastroianni, il est toxique. Bah moi, depuis le début, je sais qu'il est toxique. Et alors qu'on j'ai envie d'avoir justement une libération de ce personnage qui s'est fait enguirlander justement dans un âge où elle était innocente, là, tout d'un coup, on me dit ah mais il y a ça qu'elle a fait, il y a plusieurs scènes qui disent ah bah c'est pas bien, et Mastroianni, il est dans le juste. Et pour moi, c'est pas la direction que devrait prendre le film. Et en fait, le fait qu'il me montre ça, ou en tout cas qu'il me dise alors qu'il veut montrer l'émancipation de ce personnage, qu'il me donne du faux, ou en tout cas la manière dont c'est fait. Par exemple, dans plus récemment, on avait dans On vous croit, le personnage de la mère, il est pas tout blanc, et ça j'adore. Bah là, je trouve que c'est peut-être un peu trop noir dans le gris. Je sais pas si vous avez ressenti ça.
Je suis pas forcément trop d'accord. Je trouve pas qu'on mette vraiment la faute sur elle à un moment, parce que oui. Comme elle le dit un moment dans le film, qui serait pas dans cet état après toutes ces années avec toi, clairement. et je pense, non, il reste problématique tout du long, il reste toxique tout du long, mais quand même, ils ont vécu tellement de choses ensemble, et c'est ça qui fait qu'à la fin, il se passe ce qui se passe. Il y a quand même, quand même du passif, il y a un vrai vécu de ensemble, et donc ça se dénoue comme ça. Mais non, je suis d'accord avec toi, c'est lui le méchant du début à la fin.
Mais c'est aussi pour ça que perso, la fin du film, sans la dire, moi j'y souscris vraiment pas. Et en plus, je la trouve justement très arriérée par rapport au reste du film qui...
J'entends.
Qui tend à tendre, qui tend à se diriger vers justement quelque chose de beaucoup plus mature et pas on se dit ah ça a mal vieilli. Non, justement, ça a relativement bien vieilli. Puis il y a la fin. Et je suis en mode bah non, film, fais pas ça, t'étais bien, pourquoi?
J'ai ma théorie, mais je sais pas, enfin, ça t'est spoilé donc je vais pas la dire à l'antenne. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez les films cathartiques, parce qu'en vrai, c'est un film cathartique, c'est vraiment genre le film, en fait, les personnages littéralement drop de mic, littéralement, genre ils vident leur sac et c'est jouissif et c'est génial et ça vous en est dans plein de montagne russe émotionnelle, on va dire.
Le premier commentaire sur Letterboxd, c'est The Original Gone Girl, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, vraiment, vraiment. Et en vrai, pour un film, Male Gaze, il donne une voix à son personnage féminin. Franchement, c'est un film qui a 60 piges quelqu'un quand même. Donc voilà, moi je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas encore vu.
Des quatre personnages qu'on a dans les films d'aujourd'hui, je pense Philomena, c'est celle qui est la plus sardonique, la plus, la plus violente, la plus star. Enfin,
C'est la plus âgée aussi.
On a une évolution vu qu'on a plein de flashbacks. En fait, le film consiste surtout de flashbacks. Bah, on a une évolution, mais c'est vrai que c'est celle qu'on voit la plus avancée dans son âge.
C'est ça.
Et par contre, on en parlait en off, mais on se demandait quelles ont été les réceptions critiques de l'époque. Figurez-vous que c'était mitigé parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais Vittorio De Sica, il n'a pas fait juste Mariage à l'italienne. Il se trouve que c'était l'un des précurseurs de ce qu'on appelle le néoréalisme italien, avec Roberto Rossellini, etc. C'est le même mec qui a fait Le voleur de bicyclette. Et figurez-vous que la critique à l'époque, les gens de gauche lui reprochaient de s'être trop éloigné du néo-réalisme. Sauf que, spoiler alert, quand un réalisateur décide de commencer dans l'industrie par un certain genre cinématographique, c'est pas parce qu'il commence par ce genre qu'il est obligé de s'y coller toute sa vie. Il faut grandir, voilà. Il faut maturer, en fait. Voilà.
Et tant que j'y pense, c'est à ce film que je pensais par les décors immenses, parce que l'appartement, la caméra, elle fait des panneaux. Donc elle va de gauche à droite, le mouvement il dure 14 minutes, le temps qu'il traverse le couloir, le décor est immense, la hauteur sous plafond est de 14 mètres, c'est monstrueux. Donc ouais, c'est vraiment big studio, big cinéchita, j'ai envie de dire.
À fond. Et du coup, à l'époque, figurez-vous que la critique cinéphile lui reprochait un peu d'avoir des personnages trop différents du néoréalisme italien. Mais encore une fois, c'est logique, c'est pas le même registre cinématographique, quoi. Donc voilà, on va encore monter le temps, mais pas de beaucoup, parce que c'est vraiment d'une année. On va parler très rapidement, parce que l'heure passe vraiment beaucoup trop vite, de Irma la Douce de Billy Wilder de 64, qui reprend le tronc commun, à savoir, presque, qui reprend presque le tronc commun.
Ah si, carrément.
Il y a une différence quand même, hein. Ça se déroule pas forcément de la même manière, et la perception du tronc commun est pas pareil non plus. Donc là, on suit Shirley MacLaine, bon, je pense que c'est littéralement Irma, dans le film, qui travaille donc dans une maison close, je pense, dans mon souvenir,
dans la rue, et qui a son hôtel habituel.
Oui, voilà, son hôtel
mais
habituel.
Mais elle habite pas là, c'est son bureau.
Oui, c'est ça. Voilà. Qui rencontre un jour, en tant que client, Jack Lemmon, qui tombe amoureux d'elle, et il se dit, mais est-ce que je peux pas l'aider, cette dame, en fait, qui est visiblement dans le besoin, alors que
Et la différence, c'est qu'il n'est pas riche.
Dans ce sens-là, oui. Ok.
Voilà. Et la perception du métier, enfin, je veux dire, ce qu'on fait de la perception du métier est très péjoratif dans le film, est différente aussi. Ouais. Ce qu'il entreprend de faire est différent. Voilà, c'est pas le même sauvetage. Voilà.
Complètement.
Il y a beaucoup plus ce côté amour où il fait ah mais je l'aime et après justement le possessif toxic male et tout.
C'est
pas
le...
que ça finisse forcément bien.
C'est ça, c'est le classique, la représentation vraiment la plus toxique possible de l'amour passionnel. Là c'est moi qui utilise des guillemets.
En fait ça commence vraiment, il dit ah mais je vais rester parce que je l'aime. T'as deux cuts et après on a genre fast forward et ça fait maintenant je suis possessif et je suis toxique.
C'est ça, je meurs de jalousie, je pourrais tuer par amour pour elle et tout. Oh frérot.
C'est bon, laisse-la te décider aussi, voilà, on vous en dit pas plus, mais en tout cas, oui, bon, on va dire des deux, je vous conseille plus Mariage à l'italienne que Irma la Douce,
Si on peut continuer aussi sur Irma la Douce, il y a une différence qui pour moi est capitale, c'est que le personnage principal, c'est le monsieur, ça s'appelle Irma la Douce, mais en fait, on va suivre surtout ce que lui fait, Irma, en fait, elle, tout du long, elle va juste faire son taf, elle va aller de client en client, elle va essayer de faire des trucs pour lui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est... Donc, on a dit, par exemple, pour Anora, on disait que c'était une lutte des classes. Ce que racontent les films, ils n'essayent pas forcément de parler du travail du sexe ou de faire un documentaire sur comment ça se passe. Bah, de la même manière que Anora utilise le travail du sexe pour parler de lutte des classes, bah, là, Billy Wilder va utiliser ça pour parler, en fait, des rapports hommes-femmes dans le sens... qui ramène le pain à la maison. Parce que ce que je trouve très intéressant pour le film, avec tous les défauts qu'il a, c'est surtout en 63 qu'il est sorti,
je crois,
c'est qu'il va utiliser cette histoire pour inverser les rôles, où en fait c'est Irma, c'est Irma qui va ramener l'argent à la maison et qui va dire à son mari, ne travaille pas, parce que sinon j'aurai l'air mal. Et je trouve ça assez intéressant, surtout à cette époque, de vouloir jouer ça et comment il va essayer de le retourner. Donc c'est un sujet qui peut être cool.
C'est intéressant ce que tu dis, que toi, c'est ce que tu en tires du film,
oui.
Parce que j'ai pas... Alors, le film est très daté, le personnage principal est insupportable, c'est une immense merde, etc., etc., mais j'ai pas détesté le film. Mais c'est vrai qu'après l'avoir vu, moi, je me suis demandé, qu'est-ce que le film veut nous raconter, au final, tu vois? Je pense que t'as peut-être raison.
Pour moi, c'est ça que ça raconte.
Ouais, et où rôles...
Les deux se tirent la couverture, et il y a même une interprétation qui pourrait être que l'homme ne supporte pas, et en fait, alors qu'il dit, l'action qu'il va entreprendre dans le film, sans vous en dire trop, encore une fois, il dit que c'est pour par amour et avec sa jalousie, sauf qu'en fait, ça fait que ça va retourner, où c'est lui qui va travailler pour essayer de ramener l'argent qui circule dans le foyer. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que Billy Wilder, c'est un génie au monde de la comédie, donc au-delà du fond du film, dans la forme, j'ai rigolé à plein de moments, tout bête, ou quand il sort de la rivière et il y a un mec qui est bouche bée, il lui met un poisson dans la bouche, je suis dans le train, je fais pfff, et je me dis, la personne à côté de moi, elle doit dire que je suis où t'as des répliques comme ça qui me font marrer, donc c'est de la comédie à la fois visuelle et dans le texte qui est super. Et par contre, le dernier plan, la chute, je comprends pas.
Ouais, non.
Parce qu'il y a tout le film qui comprend, on se déroule et on avait la fin.
Ouais, ouais.
Et on a ce dernier plan, on a un mystère surréaliste qui survient.
C'est ça que je te dis.
Et je comprends pas ce que ça fait
c'est
là.
C'est ça, moi aussi, ma question après avoir vu le film, c'est qu'est-ce qu'on a voulu me raconter pour
Mais par contre,
en retirer en fait.
C'est ça.
Le personnage de Moustache, c'est le meilleur personnage que j'ai découvert ce mois-ci. J'adore Moustache, c'est le gérant du bar. Et il a ce trope qu'il y a en plus dans un film que j'ai rattrapé pour la semaine dernière, dans Philor de Chris Miller, un personnage dans Tempête de boulettes géantes où il est juste caméraman et il dit oui, j'ai aussi un diplôme d'avocat. Ah oui, j'ai aussi fait une formation de chirurgien. Et qui a 10 000 choses. J'adore ce trope, ce style de personnage. Et là, c'est Moustache qui gère le bar. Et il fait ah, mais oui, j'ai servi dans une guerre en Roumanie il y a 20 ans. Ah, mais j'ai aussi fait croupier à Monaco. Il a toutes ces histoires. J'adore, j'adore
mais
Moustache.
Mais c'est une autre histoire.
Mais oui, c'est une autre histoire.
C'est une autre thématique. Ben voilà, on a tout doucement fini cette thématique de fameux trope de pauvre travailleuse du sexe. Encore une fois, je mets des gros guillemets là-dessus. qui est sauvé par un homme riche blanc super gentil qui la tire de là
par amour
le mal sévior
bien
oh là
sûr
là.
Parce que l'amour excuse tout évidemment. malheureusement je dis ça avec beaucoup de cynisme mais c'est malheureusement vrai. Faut voir ça sous le prisme du fait que dans ce genre de film qui parle de ça, 99% des films qui passent ça qui parlent de ça sont réalisés par des hommes malheureusement, mais j'avais envie de mettre un peu de baume sur votre cœur parce qu'il se trouve qu'il existe un film qui parle de la condition féminine du travail du sexe vu par une femme. Et oui, il existe un film qui parle de ce sujet sous le prisme d'un female gaze qui en plus est réalisé par une réalisatrice féministe qui s'appelle Lizzie Borden. J'avais envie de vous parler un tout petit peu, une petite minute, de Working Girls de Lizzie Borden sorti en 86. Je trouve que ce film est super intéressant parce que, bon, là, je vous le mets en baume sur le cœur, mais ça ne suit pas le même tronc narratif commun à Nora et Maria Italienne. Mais en tout cas, ça a le mérite de parler de prostitution, avec un certain female gaze. Donc on suit Molly, une travailleuse du sexe qui est le personnage principal. C'est un film qui se passe en huis clos et en fait on suit son travail, et ce qui est super intéressant et super féministe de sa part, c'est de traiter de ce métier, parce que c'est un métier, mais de le montrer sous le prisme que oui, c'est littéralement un métier comme les autres, et comme tous les métiers ça a des hauts et des bas, et ça a un regard, et ça a l'air super intéressant, c'est très bien écrit, en plus ça s'est vraiment documenté parce que la réalisatrice a été interviewer les travailleuses du sexe dans leur quotidien, les hauts et les bas, etc. Donc il y a vraiment eu un travail d'investigation et de neutralité et de female gaze, et voilà. En termes de rythme, ça rejoint beaucoup le cinéma de Chantal Ackerman, de ce qu'on a dit. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille. Si vous voulez un film féministe qui parle de ça, le female gaze, il est très chouette.
Ouais. Tu peux nous rappeler le titre, s'il te plaît ?
Working Girls de Lizzie Borden, sorti en 86.
Merci.
Voilà, donc encore une fois, ce genre de sujet, c'est très vague. On a vraiment effleuré le tas, on n'est vraiment pas rentré en profondeur. Il y a plein de films qui en parlaient, on a choisi d'en choisir 4-5 à la pelletée comme ça pour vous offrir une certaine réflexion cinéphilique. Ce genre de sujet, on va potentiellement les recycler, peut-être en concept mensuel, on ne sait pas, on verra, l'avenir nous le dira. Je vais laisser la parole à, je ne sais pas qui veut faire la minute cinéphage.
Je vais m'en charger.
Martin, voilà, oui. En fait, j'ai voulu te déléguer, mais si ça se trouve, c'était pas toi, donc
non, je n'ai aucune info.
Je peux, oui. Bonjour, c'est la minute cinéphage, tous les jeudis à 18h30 au H1 301, une séance gratuite à l'ULB. Et cette semaine, quel programme ? C'est Badlands, ou La balade sauvage en français, le chef-d'œuvre de Terrence Malick, film fantastique de l'époque du Nouvel Hollywood, qui va suivre une romance aussi un peu toxique comme ça entre un garçon pas si vieux mais avec une fille beaucoup trop jeune dans les paysages américains. Voilà, je crois que c'est même tiré de faits réels. C'est un film qui est alors qui pose plein de questions, et justement avec cette relation qui est très toxique, c'est notamment avec Sissy Spacek, celle qui fait Carrie. Mais on va aussi voir beaucoup les paysages américains qui sont somptueux, ouais, sur pellicule. Voilà, vraiment, au moins, c'est un plaisir visuel de fou, un plaisir thématique sur ce qu'il arrive à aborder qui est aussi incroyable, et c'est vraiment un film à ne pas rater, qui est un chef-d'œuvre, je pense, incontesté.
C'est ton choix, c'est ta sélection.
Ce n'est pas mon choix, moi ce sera la semaine prochaine, c'est la grande aventure Lego.
Ah, voilà. On revient à l'heure des mille heures encore et encore.
Voilà, et donc c'est demain, Badlands, c'est demain à 18h30 au local H1 301 à l'ULB, venez nombreux. La séance est gratuite, comme chaque semaine, toutes les séances sont gratuites.
Et c'est l'occasion de découvrir Terrence Malick si vous n'avez
encore
rien vu.
Grand réalisateur, énorme réalisateur.
Le goût. Merci de nous avoir écoutés pendant cette heure laborieuse. On a parlé de beaucoup de films et de sujets cinéphiliques. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de cinéma et toujours plus de cinéphilie. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye bye.
Salut. Et tout c'est compliqué. La vie.